France Culture.
18h sur France Culture, le journal Servane de Pastre. Bonsoir Servane.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Le Premier ministre François Bayrou s'est envolé vers Mayotte. Et deux semaines après le passage du cyclone Chido, les habitants de l'archipel racontent ce qu'ils ont vécu. Vous entendrez le récit de certains d'entre eux. En Syrie, la milice au pouvoir détaille l'après Bachar al-Assad. Elle prévoit notamment l'organisation d'élections d'ici 4 ans. Et puis un bonjour qui passe mal en Belgique. Le contrôleur d'un train de la SNCB a écopé d'une plainte d'un voyageur néerlandophone après avoir salué les passagers en français. La scène s'est déroulée début octobre, on vous en dit plus dans ce journal. Le Premier ministre François Bayrou vient de s'envoler pour Mayotte. Il est attendu dans l'archipel demain matin, deux semaines après le passage du cyclone Chido. Il promet de venir avec des solutions concrètes. Sur place, une grande opération de déblaiement est en cours avant l'arrivée des membres du gouvernement, car plusieurs ministres sont du voyage, celui des Outre-mer, mais aussi les ministres de l'Éducation, de la Santé ou encore du Logement. Le bilan officiel des victimes est de 39 morts. Dans les bidonvilles, plus personne ne manque à l'appel et ce sont désormais des récits de survivants qui nous parviennent. Reportage dans le nord de Mayotte d'Agathe Mahué et Gilles Gallinaro.
Moi, je m'appelle Fessoal Bakar.
Sur la colline de terre et de cailloux où les petites cabanes de tôle sont déjà en partie reconstruites, Fessoal raconte en langue chimaoraise sa décision de rester chez lui le matin du cyclone.
Pour lui, c'était rien de grave, ça allait passer, mais au fil des heures, il voit l'intensité et lorsque ça a commencé à faire envoler le toit,
9h36,
c'est là qu'il a décidé de partir.
Ah oui, 9h36.
Au pire moment, Fessoal se lance alors dans une traversée insensée du bidonville sous un déluge d'eau et de vent.
Je descendais en bas pour aller à la mosquée, là-bas, après encore la mosquée, ça a cassé encore, tu vois. J'ai obtenu le petit bébé.
Son enfant d'un an serré dans ses bras. Fessoal voit un gros arbre soudain déraciné. Les tôles volent autour de lui.
Les tôles qui se passent, moi je cache d'abord.
Il atteint finalement l'abri.
En tout cas, c'est bon.
Tout le monde est sain et sauf.
Heureusement, ça s'est passé le jour. Mais lui, il est catégorique. C'était la nuit, il y aurait eu beaucoup de morts.
En visite au tribunal judiciaire de Paris à la mi-journée, Gérald Darmanin est revenu sur sa proposition de renforcer l'isolement en prison des 100 plus grands narcotrafiquants. Un symbole fort, selon le nouveau garde des Sceaux, qui estime que le pays est à un point de bascule. Une mesure qui interroge du côté des syndicats qui pointent le manque de place dans les quartiers d'isolement en prison. Dans un entretien aux Parisiens, Gérald Darmanin dit également souhaiter se battre sur la question du budget alloué à son ministère. Dans le Pas-de-Calais, les trois personnes sont mortes ce matin en tentant de traverser la Manche. Le drame s'est déroulé au large de la commune de Sangatte. Selon son maire, l'embarcation était trop chargée, ce qui a conduit à des bousculades, des hypothermies et trois noyades selon un bilan provisoire. Depuis le début de l'année 2024, 76 personnes sont décédées en tentant de gagner l'Angleterre. Un record. En Syrie, l'organisation d'élections pourrait prendre jusqu'à 4 ans. C'est ce qu'a déclaré Ahmed al-Sharaa, le chef de la milice HTC, dans un entretien à la chaîne saoudienne Al Arabiya. Il poursuit en détaillant un calendrier et plusieurs échéances. Il faudra, selon lui, 12 mois pour que les Syriens constatent des changements radicaux dans leur pays. 3 ans pour rédiger une constitution. Les explications de Mohamed Erami, correspondant de France Culture à Damas.
La révision de la constitution garantissant la liberté d'expression et de manifestation, les droits des femmes et des minorités, ainsi que l'organisation d'élections présidentielles, ont occupé une place importante dans les assurances données par le nouveau chef de la Syrie, Ahmed al-Sharaa, au peuple syrien lors d'une intervention médiatique sur la chaîne Al Arabiya.
Ce qui m'importe, c'est que le peuple syrien me croit. Nous avons promis au peuple de le libérer de ce régime criminel et nous l'avons fait. Quant aux détails sur les droits et les libertés, ils doivent être inscrits dans la Constitution et non dans l'avis d'une personne. En dehors de mes vœux personnels, ce qui sera convenu par les Syriens en matière de loi et de Constitution sera notre tâche de le préserver et de le protéger.
Al-Sharaa a également adressé plusieurs messages à l'étranger au cours de ses déclarations. Le premier visait à rassurer les pays voisins, y compris Israël, en affirmant qu'il ne serait pas ciblé ni impliqué dans un conflit avec la Syrie. Le second était une invitation adressée aux pays directement impliqués dans la crise syrienne, à savoir la Russie et l'Iran, leur demandant de respecter la volonté des Syriens et de ne pas interférer dans leurs affaires internes.
En ce qui concerne l'aspect israélien, je pense que leur intervention en Syrie et leur frappe aérienne étaient justifiées par la présence iranienne en Syrie. Aujourd'hui, ces justifications appartiennent au passé et ne sont plus acceptables après que nous ayons réussi à expulser l'Iran et le Hezbollah de la Syrie.
Enfin, El-Shara a exhorté le prochain président des États-Unis, Donald Trump, à ne pas suivre la politique de l'administration précédente. Il a appelé à soutenir les Syriens dans la reconstruction de leur pays, notamment en levant les sanctions économiques imposées à la Syrie.
Mohamed Erami, correspondant de France Culture à Damas. L'une des boîtes noires de l'avion de ligne qui s'est écrasé dans le sud-ouest de la Corée du Sud a été retrouvée. L'accident s'est déroulé cette nuit. L'avion s'est posé en urgence. Il a heurté un mur avant de s'embraser. 179 des 181 personnes à bord sont décédées. Deux membres de l'équipage ont pu être sauvés. C'est la pire catastrophe aérienne dans l'histoire de la Corée du Sud. Autre catastrophe aérienne au Kazakhstan. Elle a eu lieu mercredi. Un avion de ligne de l'Azerbaïdjan Airlines s'est écrasé dans des circonstances encore floues. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev affirme aujourd'hui que l'appareil a subi des tirs en provenance du territoire russe. Il accuse Vladimir Poutine de cacher les causes du crash. Des accusations qui font écho aux excuses du président russe hier, Eric Begala.
Oui, Servanin, les excuses de Vladimir Poutine hier au président azerbaïdjanais traduisaient d'abord l'assomption d'une sorte de responsabilité de la Russie dans la perte de cet appareil. Mais sans admettre que celle-ci était due à des tirs de sa défense antiaérienne. Ilham Aliyev est, lui, aujourd'hui explicite dans sa description des événements qui ont conduit au crash. D'abord, le brouillage des instruments de vol de l'appareil par des engins de guerre électroniques de la défense antiaérienne russe autour de Grozny. Puis le tir, probablement d'un missile antiaérien dont la mitraille a touché la dérive et la queue de l'avion. Le président azerbaïdjanais, normalement plutôt en bon terme avec le Kremlin, n'a pas hésité non plus, dans son adresse vidéo, à accuser la Russie d'avoir voulu dissimuler sa responsabilité, d'avoir, par exemple, évoqué des conditions météo, en l'occurrence du brouillard, lequel aurait empêché le pilote d'Azerbaijan Airlines d'atterrir sur Grozny alors que son appareillage était totalement brouillé et qu'il a d'ailleurs dû demander à la tour de contrôle de le guider par radio pour ses deux tentatives de poser. En résumé, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev demande surtout à Vladimir Poutine de faire des excuses publiques, que la Russie admette sa responsabilité, qu'elle punisse les coupables et qu'elle paie des compensations à l'Azerbaïdjan et aux victimes du crash, a martelé le président. 38 personnes sur les 67 qui se trouvaient à bord sont décédées dans le crash de mercredi matin.
Merci Eric Bigala. Jour d'élection au Tchad avec un triple scrutin organisé aujourd'hui, législatif mais aussi provincial et local. La participation s'annonce faible après plusieurs appels au boycott de la part de l'opposition. Ils accusent le régime du maréchal Mahamat Idriss Déby de falsifier ces élections à la mi-journée. Le taux de participation s'élevait à 38% selon l'Agence nationale de gestion des élections. Une annonce dans le train qui ne passe pas en Belgique. Un contrôleur de la SNCB serait rentré dans un wagon en saluant les passagers en néerlandais mais aussi en français, ce qui lui a valu une plainte d'un voyageur néerlandophone. Le train circulait alors en région flamande. La scène s'est déroulée le 7 octobre dernier. Elle vient d'être révélée et elle a beaucoup fait réagir en Belgique où le bilinguisme est extrêmement important, Jean-Jacques Herry.
En entrant dans un wagon, le chef de bord aurait prononcé ces mots « Goedemorgen, bonjour », saluant les passagers dans les deux langues. Or, à ce moment-là, le train à destination de Bruxelles se trouvait encore en région flamande. « On n'est pas à Bruxelles ici, vous devez seulement utiliser le néerlandais », lui lance alors un passager mécontent qui décidera ensuite de porter plainte auprès de la commission permanente de contrôle linguistique pour non-respect des règles linguistiques dans un transport public. La législation est en effet très tatillonne. À Bruxelles, zone bilingue, les annonces se font en français et en néerlandais, en Wallonie seulement en français et en Flandre uniquement en néerlandais. Le débat a fini par s'inviter jusqu'à la Chambre des députés. Sami Madi, chef des chrétiens démocrates flamands, parfaitement bilingue, au micro de RTL Info.
On dit souvent, oui, si on fait les deux, c'est bien. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On parle français. Si à côté de cela, on n'investit pas dans le néerlandais, qu'on précise qu'il faut apprendre le néerlandais, au final, on parle surtout le français.
De quoi provoquer une petite passe d'armes avec le ministre fédéral de la mobilité, le francophone Georgie Guinet.
Permettez-moi de m'étonner que certains considèrent que c'est la priorité du jour, alors qu'ils ont aussi un gouvernement informé.
Bref, une histoire belge a commenté le journal La Dernière Heure. Un vrai marqueur culturel a renchéri un chroniqueur de la RTBF, la radio publique francophone. Nulle part au monde, un type ne va déposer plainte pour un Goedemorgen bonjour. La SNCB, Société Nationale des Chemins de Fer, a annoncé quant à elle soutenir son employé et plaide pour plus de souplesse dans l'application de la réglementation.
Jean-Jacques Héry, correspondant de France Culture à Bruxelles. Et puis la météo de demain pour finir ce journal. La France à nouveau coupée en deux avec du soleil dans une large partie sud du pays et de la grisaille au nord. Au meilleur de la journée, il fera 0 degré à Strasbourg, 6 à Lille et Montélimar, 8 à Brest et 15 à Nice.